pour cette prédication, j'aimerais partir d'un texte qui se trouve dans les psaumes, dans le psaume 105. Le psaume 105 est long. Je vous invite à le lire en entier, il est très intéressant. Mais là, pour cette prédication, je vais en lire des extraits seulement. Voilà, psaume 105. Je commence au verset 1, si vous voulez suivre, mais vous pouvez écouter, c'est quelque chose qui s'écoute bien. Voici ce qu'il est écrit. Remerciez le Seigneur, chantez son nom, racontez ses exploits aux autres peuples. Chantez pour lui, jouez pour lui de vos instruments, redites toutes ses actions étonnantes. Soyez fiers de lui, le Dieu saint. Soyez dans la joie, vous qui cherchez le Seigneur et son aide puissante. Cherchez sans cesse sa présence, vous, la famille d'Abraham, son serviteur, vous qui êtes nés de Jacob et que le Seigneur a choisi. Souvenez-vous des actions étonnantes qu'il a faites. Rappelez-vous ses exploits et les décisions qu'il a annoncées. Nos ancêtres étaient peu nombreux. On pouvait les compter. C'était quelques étrangers installés dans le pays. Ils allaient de pays en pays et de royaume en royaume. Pourtant, le Seigneur n'a laissé personne les écraser par l'injustice. À cause d'eux, il a puni des rois. Il a dit « Ne touchez pas à ceux que j'ai choisis. Ne faites pas de mal à mes porte-paroles. » Il a fait venir la famine dans le pays. Il n'y avait plus de nourriture. Il a envoyé un homme devant nos ancêtres. C'était Joseph, qu'on a vendu comme esclave. On lui a attaché les pieds avec des chaînes, on lui a mis un collier de fer autour du cou. Cela a duré un certain temps. Un jour, ce que Joseph avait annoncé est arrivé, et ainsi le Seigneur a montré qu'il était innocent. Le roi d'Égypte a donné l'ordre de lui enlever ses chaînes. Le maître des peuples l'a fait libérer. Il l'a nommé chef de sa maison et gérant de toutes ses richesses. Joseph a dû enseigner les ministres comme il le voulait et apprendre la sagesse aux vieux conseillers. Et ensuite, Jacob est venu en Égypte. Israël a été un étranger au pays de Cham. Dieu a donné beaucoup d'enfants à son peuple. Il a rendu les Israélites plus forts que leurs ennemis. Il a changé le cœur des Égyptiens. Et ils se sont mis à détester son peuple et à comploter contre ses serviteurs. Dieu a envoyé Moïse, son serviteur, et Aaron, qu'il avait choisi. Chez les Égyptiens, ils ont fait des actions étonnantes de la part de Dieu. Ils ont fait des choses extraordinaires dans le pays de Cham. Dans les familles d'Égypte, Dieu a fait mourir tous les fils aînés, les premiers fruits de la puissance de leur père. Puis, il a fait sortir nos ancêtres, chargés d'or et d'argent. Dans leur tribu, personne n'est resté en arrière. Les Égyptiens étaient contents de leur départ parce qu'ils tremblaient de peur. Dieu a étendu un nuage de fumée pour protéger nos ancêtres, et la nuit, un feu les éclairait. Ils ont demandé à manger, alors il a fait venir des oiseaux, il les a nourris avec le pain du ciel. Il a fendu le rocher et l'eau a coulé. Elle a coulé dans le désert comme un fleuve. Oui, Dieu s'est souvenu de sa promesse sainte à Abraham, son serviteur. C'est dans la joie qu'il a fait sortir son peuple d'Égypte. Ceux qu'il avait choisis criaient de joie. Dieu leur a donné les terres des autres peuples. Nos ancêtres ont profité de leur travail pour suivre ses enseignements et obéir à ses lois. Chantez la louange du Seigneur. Que faire de ce psaume? Que faire de ce psaume? En quoi est-ce qu'il nous intéresse aujourd'hui, nous, au XXIe siècle? En quoi c'est cette histoire d'un petit peuple qui sort du pays d'Égypte nous intéresse? Je crois que ce psaume nous montre comment louer Dieu. Son peuple s'est tenu de ce de façon très concrète, jusque dans les détails, jusque la façon dont il a donné la nourriture, jusque la façon dont il est intervenu Il a frappé les Égyptiens. Ils n'étaient pas seulement souvenus de la grande délivrance. Et s'en souvenir, c'est important parce que plusieurs fois au cours de l'histoire d'Israël, Dieu a interpellé Israël au moment de prendre une décision, au moment de se mettre en route. Et lui a dit, « Moi qui m'adresse à toi, je suis le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Tu peux me suivre parce que je suis celui qui t'a fait souvenir d'Égypte. Celui qui t'a fait ce qu'on raconte dans le psaume 105 et ce qu'on raconte ailleurs dans d'autres passages de la Bible. Mes amis, Dieu n'est pas seulement quelqu'un qui nous offre le salut pour plus tard, qui nous sauve pour une vie éternelle à venir, et puis en attendant, eh bien, serrons les dents. Non. Dieu est avec nous dans les petites choses. Jésus a promis, quand il est monté au ciel, il a promis à ses disciples, « Je suis moi-même avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ce n'est pas seulement à la fin de notre vie que nous le verrons. Il marche avec nous et il nous accompagne dans les petites choses. Et donc, ce matin, plutôt que de commenter le psaume 105 et de nous plonger dans l'histoire du peuple d'Israël, j'aimerais nous plonger dans notre histoire récente et voir comment Dieu est intervenu pour nous dans le projet que nous vivons, ce projet de bâtiment, ce projet de déménagement que nous voulons mener. Et si vous n'êtes pas attaché à cette église, restez, écoutez. Je crois que cette histoire enseigne tout le monde parce que nous sommes tous réjouis de savoir comment Dieu agit pour son Église, pour ceux qui veulent se mettre à sa suite. Je vous ai fait un bref rappel historique avec quelques dates clés de ce qui s'est passé dans notre projet. Notre projet remonte à décembre 2019, c'est quand on va y rentrer, enfin, je mélange. Il remonte à décembre 2015, il y a presque 3 ans. Il y a presque 3 ans, nous avons vu ce bâtiment, nous avons pris contact, c'est le temps des premières visites, du conseil, des anciens d'abord, et puis ensuite de toute l'église dès le mois de janvier, et puis nous avons prié, nous avons cheminé, et à l'Assemblée Générale, en mars 2016, nous avons pris la décision d'un achat pour ce bâtiment. Une décision timide. Quand on a vu ce bâtiment, on s'est dit « Oula, c'est trop grand pour nous. » On peut en prendre la moitié. La moitié, c'est pas mal. Et donc, on a pris la décision d'acheter la moitié, 449 mètres carrés pour être exact, pour un budget d'un peu plus de 825 000 euros. Voilà. Et puis, on a commencé à travailler et surtout on a attendu. Attendu que le compromis de vente soit signé. Attendu après le notaire, attendu après l'administration. Et en octobre 2016, alors qu'on était sur le point de signer ce compromis de vente, notre propriétaire revient vers nous, nous fixe rendez-vous et nous dit « Écoutez, j'arrive pas à vendre le reste. Si je vous faisais un prix pour prendre la totalité, vous auriez pas besoin d'un ascenseur, vous feriez aussi des économies. Est-ce que l'un dans l'autre, ce serait pas intéressant pour vous ?» Nous y avons réfléchi et en janvier 2017, à l'Assemblée générale suivante, nous avons décidé de partir pour la totalité de la surface. 1085 mètres carrés en 2 phases. Première phase, 550 mètres carrés, un petit peu plus grand que ce qu'on avait prévu initialement, et un budget de 922 000 euros, un petit peu plus que ce qu'on avait avant. Et puis, le projet a continué. En avril, nous avons pu obtenir le permis de construire, qui avait été déposé en octobre 2017. En août, nous avons eu le prêt immobilier, et en octobre 2018, il y a 10 jours, le 5 octobre, 9, nous avons pu signer, le bâtiment est à nous. Vous avez vu la clé la semaine dernière, nous nous sommes réjouis ensemble. Voilà, voilà le projet, très vite. Est-ce que nous voyons la main du Seigneur dans ce projet? Des fois, on peut tenter de se dire que finalement, c'est un processus assez normal. Voire même un peu long. Vous vous souvenez de tout ce temps d'attente que nous avons eu, que nous ne pouvions pas expliquer, nous a demandé, amené à nous demander, est-ce que Dieu nous accompagne réellement? Est-ce que nous voyons sa main? Alors, pendant cette semaine, j'ai fait un travail d'historien. J'ai replongé dans mes mails, dans mon agenda, dans des comptes rendus. Et j'ai mis en évidence, me sont apparues trois directions, trois axes dans lesquels nous pouvons vraiment voir Dieu agir. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. Le premier, c'est que Dieu agit dans le temps. Il n'agit pas de façon instantanée, mais il se sert du temps. Vous avez vu la vidéo de Samuel Pereira, pasteur qui m'a précédé. Le projet a commencé avant 2015. Il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup de visites, mais ça n'aboutissait pas. Rien ne convenait, rien ne remportait l'adhésion de l'Église. Et du coup, avec le conseil, nous avions décidé, on arrête. On fait une pause. On arrête, c'est plus la priorité. On arrête de mettre de l'énergie là-dedans. Et à la rentrée 2015, de septembre à novembre, nous avons travaillé sur un projet d'église. Alors, c'était pas encore des disciples qui font des disciples. On n'avait pas encore trouvé cette formule qu'on a communiquée. Mais il y avait la volonté de grandir, la volonté d'aller vers l'extérieur, la volonté d'accueillir du monde. Et la volonté de se mettre en danger pour cela, pour faire de la place aux autres. Et en 2015, alors que nous ne cherchions pas, Dieu a mis ce bâtiment sur notre route. À force de passer sur l'avenue Édouard Michelin, un jour, nous voyons un panneau alloué. Alors, ça nous intéressait pas trop à louer parce que nous, ce qu'on voulait, c'était acheter. On est propriétaire ici. On voulait pas quitter ici pour aller louer ailleurs. Et puis, plus de 1000 mètres carrés, ça nous semblait complètement trop grand. Mais on s'est dit, allons voir. Allons voir si on peut faire quelque chose. Et là, surprise, le propriétaire nous dit qu'il n'y a pas de problème pour vendre et qu'il n'y a pas de problème pour découper et prendre une partie seulement. On l'a visité en église. Immédiatement, ça a plu à tout le monde. C'était le bâtiment. Quand on le voit, on se projette tout de suite dans ce qu'on peut faire. Et vraiment, nous avons vu la main de Dieu. Parce que nous avons cherché, nous avons visité, nous n'avons rien trouvé. Et quand nous ne cherchions plus, Dieu nous l'a donné. Alors, on a été prudents, on est parti sur la moitié. La moitié seulement. Et puis, on voulait signer cette promesse de vente qui a tardé. On a mis 10 mois pour être en position de la signer. Et pendant 10 mois, on passait toujours avenue Édouard Michelin. Hein. J'habite le quartier, je passais devant. Tous ceux qui viennent par l'autoroute passaient devant tous les dimanches matins et voyaient toujours ce panneau qui rappelait. Et on s'est demandé, Seigneur, est-ce que tu ne serais pas en train de nous interpeller et de nous dire quelque chose? Et avec les anciens, on s'est senti interpellé. On s'est dit peut-être que Dieu nous dit qu'il faut prendre la totalité, mais on savait pas comment faire. Et on a décidé qu'on n'allait pas contacter le vendeur pour lui demander, mais qu'on attendait un signe. Et c'est lui, comme je vous l'ai raconté, en octobre, qui nous fait cette proposition alors qu'on ne l'attendait pas. Cette proposition qu'on aurait été incapable de formuler en janvier 2016, après 10 mois d'attente, Dieu, avec le temps, avait travaillé dans nos cœurs et nous avait préparés à rentrer dans ce projet plus grand. Dieu se sert du temps. Et je pense que toute l'attente qu'on a eue pour signer le compromis, toute l'attente due au notaire, ce notaire qui nous a tant énervés, avec lequel on n'a pas eu des mots tendres tout le temps. Je crois que Dieu était aux commandes et qu'il travaillait dans nos cœurs. Dieu a utilisé le temps pour nous préparer pour un projet plus grand que l'idée que nous avions au départ. Deuxième leçon, une leçon sur la prière. La prière, depuis des années, nous nous plaignons que ce n'est pas le fort de cette Église. Depuis les années 2000, on se plaint que nous sommes une Église qui ne sait pas prier. Mais dès le début de ce projet, on a essayé de prier. Maladroitement, mais on a tenu à faire en janvier, tous les ans, depuis janvier 2016, une semaine de prière. Et ainsi, on a fait une semaine de prière avant notre offre, avant de faire l'offre d'achat. Et vraiment, on l'a placé devant le Seigneur en lui disant, écoute, on a l'impression que c'est bon. Nous allons avancer. Si ça va pas, ferme la porte. Et en janvier 2017, quand il a fallu prendre la décision plus grande, nous avions fait encore une semaine de prière à travers un parcours de prière qui nous préparait. Et en janvier 2018, nous avons fait une semaine de prière inclue dans tout un mois d'enseignement où nous avons demandé à Dieu, Seigneur, apprends-nous à prier. Il nous a appris. Il nous a appris parce que, au cours de l'année 2018, nous avons connu deux blocages. En mars, première panique. Le permis de construire qu'on avait déposé en octobre, qui devait être délivré en mars. En mars, on nous dit, ah mais non, vous avez envoyé trop tard certaines pièces. C'est 5 mois à partir d'aujourd'hui. Ce sera pas, vous l'aurez pas ce mois-ci, vous l'aurez en octobre 2018. Colère, révolte, incompréhension. Finalement, nous avons organisé des réunions de prière. Nous avons mobilisé l'Église et l'Église était là. Ces réunions de prière. Nous avons eu des réunions le 18, le 25, le 28. La situation était débloquée. Tout de suite après, dans la semaine qui suit la réunion de prière. Et nous avons obtenu notre permis de construire signé dans le mois qui a suivi. Ça, c'était le premier blocage de 2018. Nous avons eu un deuxième blocage en 2018. Quand le prêt immobilier qui nous avait été accordé en mai 2017, donc il y a plus d'un an, il y a 18 mois, on avait notre prêt, il était accordé, et soudain la banque nous dit « Non, non, je ne marche plus, je ne vais plus avec vous. » Encore une fois, révolte, colère, incompréhension, et nous avons prié au cœur de l'été, avec une réunion, un appel particulier pour le 17 juillet. Et dans la semaine, nous avons eu un déblocage. Et dans le mois, le 7 août, nous avions notre prêt qui était accordé. Nous avions l'accord officiel. Oui, le Seigneur nous a appris à prier. Et je me souviens, en faisant mes recherches archéologiques, que déjà, en octobre 2016, le premier compromis, il a été débloqué. Après une réunion de prière, la même semaine que cette réunion de prière. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est la main de Dieu? Pour moi, c'est tellement clair. Par 3 fois, nous avons prié. Par 3 fois dans la semaine, nous avons eu une réponse. Pour moi, clairement, Dieu agit. Dieu agit. Et je dois vous avouer, je ne comprends pas. Je ne comprends pas le lien qu'il y a entre prière et déblocage. Je ne sais pas pourquoi Dieu agit quand on prie, pourquoi il n'agit pas avant, alors que je sais, la Bible le dit, la prière n'est pas magique. Mais par contre, je le vois et je n'ai aucun doute. La prière était importante dans ce projet. Dieu a voulu lui faire jouer un rôle et nous faire jouer un rôle à travers la prière pour l'avancée de ce projet. Troisième leçon que je retire de ce parcours, c'est la leçon de la foi. Dieu nous invite à nous mettre en route. À nous mettre en route avant de tout avoir. En janvier 2016, nous avons pris la décision d'y aller. Et cette décision, elle nous a fait peur. C'est le document qu'on avait distribué pour l'Assemblée Générale, et je zoome ici. Pour y aller, il fallait augmenter notre budget, il fallait augmenter les dons que nous recevions, ce que nous donnions tous à l'Église, il fallait l'augmenter de 16%. Je vous laisse faire le calcul. Combien vous donnez à l'Église? Est-ce que vous êtes prêt comme ça, du jour au lendemain, à ajouter 16% tous les mois, avec la conséquence que ça peut avoir sur votre budget, sur votre vie? Et on s'est rendu compte que c'était vraiment pas anodin. Mais avec la prière, on s'est dit, on y va. On y va, on va voir. Et dans la foulée, on a voulu organiser une offrande spéciale qui a eu lieu en mai 2016. Une offrande spéciale où nous avons récolté, où nous avons donné, vous avez donné, presque 30 000 euros. 29 616 euros pour être exact. Il y a eu des promesses de dons qui sont venues compléter, mais dans la corbeille, ce dimanche-là, il y avait plus de 19 000 euros. J'arrive toujours pas à y croire. Donc nous nous sommes mis en route, nous avons pris la décision, nous avons donné. Et en juin, deux choses se sont passées. La première, c'est que le budget visé était atteint. Non pas avec l'offrande spéciale, sans compter l'offrande spéciale, l'Église donnait ce qu'il fallait pour rembourser le prêt, pour atteindre la cible. Nous sommes mis en route et nous avons eu ce dont nous avions besoin pour le projet et ça a été tenu jusqu'à aujourd'hui. Et en juin aussi, Luc Lévy Alvarez est arrivé à l'Église. J'ai retrouvé, c'est là que j'ai eu le rendez-vous qu'il a pris avec moi pour se présenter. Et Luc, c'est celui qu'il nous fallait pour cette étape. C'est sans ses compétences, sans son aide avec l'architecte, pour l'instruction du permis de construire, avec les notaires, avec tout ça. Je ne sais pas comment on aurait fait. J'imagine même pas. Mais il n'y a pas besoin d'imaginer parce que c'est lui que Dieu avait prévu. Il nous a envoyé à ce moment-là. Nous nous sommes mis en route. Et Dieu nous a donné ce dont nous avions besoin après que nous nous soyons mis en route. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Nous l'avons vu. Et je peux déjà vous dire que nous avons reçu d'autres dons que nous n'avons pas encore utilisés. Puisque lorsque nous nous sommes inquiétés pour les travaux et que nous avons recherché un chef de travaux, nous l'avons trouvé en la personne d'Alain Besnier qui a été le premier à parler sur la vidéo. Et nous allons pouvoir voir comment Dieu nous comble à travers ce don que nous n'avons pas encore utilisé. J'ai été beaucoup plus long que ce que j'avais prévu. Et encore, il y a plein de choses que je n'ai pas dites. Interrogez ceux qui sont là depuis le début. Ils en parleront avec passion. Il y a trois enseignements qu'il nous faut retenir. Dieu contrôle le temps et il s'en sert. Et c'est écrit dans la Bible. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il n'y a pas d'attente qui lui échappe. Il s'en sert et il s'en sert pour nous transformer. La deuxième chose, c'est que la prière est puissante. C'est un mystère. Pourquoi est-ce que quand nous nous réunissons, Dieu agit? Je n'en sais rien. Mais il y a quelque chose à découvrir dans notre vie ensemble, dans la prière. Et la troisième chose, c'est l'appel à vivre par la foi, à nous mettre en route. Comme Abraham, il a fait, qui s'est mis en route. Et vers le pays où Dieu l'appelait sans savoir où il allait, comment ça allait se passer. Parce que la foi, c'est être sûr de ce qu'on espère, être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas, de ce qui n'est pas encore arrivé. Aujourd'hui, au moment de nous mettre en route pour des travaux longs, nous en avons au moins pour un an de travaux. Nous pouvons écouter Dieu qui nous dit « Je suis ton Dieu, t'as permis d'acheter le 106 avenue Édouard Michelin. » Et nous pouvons nous mettre en route à sa suite, par la foi, sans tout voir dès maintenant, mais avec l'assurance qu'il nous accompagne parce qu'il nous l'a promis en Jésus-Christ. Continuons. Continuons notre démarche dans la prière quand nous sommes bloqués, mais aussi régulièrement pour redire notre dépendance à lui. Et puis surtout, faisons confiance. Il contrôle toutes choses, même les délais que nous n'avons pas prévus. Je dirais même surtout les délais que nous n'avons pas prévus. Marchons à sa suite.